À nouveau, beaucoup de gens diront « il s'agit d'une projection de pensée engendrée par un souhait. Car ceux qui meurent sont seuls, se sentent abandonnés et ont peur. C'est pour cela qu'ils projettent quelqu'un qu'ils aiment. » Si cette affirmation était vraie, 99% de mes enfants de 5, 6 ou 7 ans devraient voir leur mère ou leur père, mais pas un seul de ces enfants dont nous avons consigné les cas au fil des années n'a dit avoir vu lors de sa mort apparente sa mère ou son père, puisque ceux-ci vivaient encore. À la question de savoir qui on voyait lors d'une mort apparente, la réponse contient deux dénominateurs communs. Premièrement, la personne aperçue devait être partie auparavant, ne fût-ce qu'une minute plus tôt. Et deuxièmement, un lien d'amour réel avait dû exister entre eux. Mais je n'ai pas raconté l'histoire de Madame Schwartz. Elle était morte 2 semaines après que son fils avait terminé l'école. Comme une de mes nombreuses malades, je l'aurais sans doute oubliée si elle n'était pas revenue me voir. Environ 10 mois après son enterrement, j'étais une fois de plus en colère. Mon séminaire sur le mourir et la mort risquait de tomber à l'eau. Je devais renoncer à la collaboration du pasteur avec lequel je travaillais et que j'aimais beaucoup. Et le nouveau pasteur cherchait à faire beaucoup d'effets auprès du public en faisant même appel aux médias. Nous étions donc obligés de parler chaque semaine des mêmes choses car mon séminaire était entre-temps devenu un événement. Je n'avais aucune envie de continuer à y participer, je ressentais la situation comme une tentative de prolonger une vie qui ne vaut plus la peine d'être vécue. Je ne pouvais plus être moi-même, je ne voyais qu'une issue pour m'éloigner de ce travail, quitter l'université. La décision était difficile car j'aimais mon travail, mais pas dans cette forme. Je pris donc, à contre-cœur, la décision suivante. Je quitterai l'université. Aujourd'hui, à l'issue de mon séminaire sur le mourir et la mort, je donnerai ma démission. Après chaque séminaire, le pasteur et moi-même regagnons ensemble l'ascenseur. Ce jour-là, quand il s'arrêta, nous terminions notre discussion au sujet de notre travail. Le problème de ce pasteur était d'être malentendant, ce qui compliquait les choses. Entre la salle de conférence et l'ascenseur, je lui dis 3 fois qu'il devait reprendre le cours. Mais il ne m'entendit pas, continuant à parler d'autre chose. J'étais au bord du désespoir et lorsque je suis désespérée, je deviens toujours très active. Avant que l'ascenseur ne s'arrête, je le pris au collet, il était gigantesque, et dit « Restez là, j'ai pris une décision très importante et je voudrais vous en informer ». À ce moment-là, une femme apparut devant l'ascenseur. Sans le vouloir, je la regardais fixement. Je ne peux la décrire, mais vous pouvez imaginer ce que l'on ressent lorsqu'on voit quelqu'un qu'on connaît bien et dont on ne sait tout d'un coup plus qui il est. Je dis alors au pasteur « Mon Dieu, qui est-ce? Je connais cette femme. Elle me regarde et elle attend que vous preniez l'ascenseur pour m'approcher. » J'étais tellement préoccupée par la vue de cette femme que j'avais complètement oublié que je tenais encore le pasteur au collet. Par cette apparition, mon projet fut déjoué. Elle était très transparente, mais pas assez pour qu'on ait pu voir à travers elle. Je demandais encore une fois au pasteur s'il connaissait cette femme, mais il ne répondit pas de sorte que je n'insistais pas. La dernière chose que je lui dis fut à peu près « Zut, j'irai la voir et je lui dirai que pour l'instant son nom m'échappe ». Ce furent mes derniers mots avant qu'il ne parte. Dès qu'il fut monté dans l'ascenseur, cette femme s'approcha et me dit « Docteur Ross, je devais revenir ». Est-ce que vous permettez que je vous accompagne jusqu'à votre bureau? Je n'abuserai pas de votre temps. Elle dit quelque chose de ce genre. Et puisqu'elle savait apparemment où était mon bureau et qu'elle connaissait mon nom, je me sentis soulagée n'ayant pas à admettre que je ne me rappelais pas le sien. Ce fut néanmoins le chemin le plus long de ma vie. Je suis psychiatre. Je travaille depuis longtemps avec des malades schizophrènes et je les aime. Lorsqu'ils me font part de leurs hallucinations visuelles, je leur réponds chaque fois « Je sais, vous voyez une vierge au mur ». Mais moi, je ne peux pas la voir. Et maintenant, je me dis à moi-même, « Elisabeth, tu sais que tu vois cette femme ? Mais cela ne peut quand même pas être vrai. Pouvez-vous vous mettre à ma place ? Pendant tout le chemin de l'ascenseur à mon bureau, je me demandais si ce que je voyais était possible. Je me dis à moi-même, « Je suis trop fatiguée, j'ai besoin de vacances. Il faut que je touche cette femme pour savoir si elle existe vraiment. » Je la touchai donc pour voir si lors du contact, elle se dissoudrait. Je sentis sa peau pour savoir si elle était chaude ou froide. C'était le chemin le plus incroyable que j'ai jamais fait. Et pendant tout ce temps, je ne savais même pas pourquoi je faisais tout cela. Je ne savais pas non plus qui elle était en fait. Je supprimais même la pensée que cette apparition puisse être Madame Schwartz qui avait été enterrée quelques mois auparavant. Lorsqu'ensemble nous atteignîmes la porte de mon bureau, elle l'ouvrit comme si j'étais l'invitée chez moi. Elle ouvrit la porte avec une politesse, une douceur et un amour irrésistible et dit « Docteur Ross, je devais revenir pour deux raisons. La première, c'est que je voulais vous dire merci à vous et au pasteur G. » C'était le merveilleux pasteur noir avec lequel je m'étais si bien entendue, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais la vraie raison pour laquelle je devais revenir, c'est pour vous dire que vous ne devez pas abandonner ce travail sur le mourir et la mort, tout au moins pas encore. Je la regardais et je ne peux plus dire si à ce moment-là je pensais déjà avoir Madame Schwartz devant moi, sachant que celle-ci était enterrée depuis 10 mois et qu'en plus je ne croyais pas en la possibilité de tel retour. Finalement, j'allais à mon bureau. Je touchais les objets que je connaissais comme étant réels, je touchais mon bureau, passais la main sur la table, palpais la chaise, tout était concrètement présent. Et vous pouvez vous imaginer que pendant tout ce temps, j'espérais que cette femme disparaîtrait enfin, mais elle ne disparaissait pas. Elle restait et disait avec insistance mais aimablement « Docteur Ross, vous m'entendez? Votre travail n'est pas encore terminé. Nous vous aiderons, vous saurez quand vous pouvez l'arrêter. Mais je vous en prie, ne l'arrêtez pas maintenant, vous me le promettez, votre vrai travail ne fait que commencer. » Pendant ce temps, je pensais « Mon Dieu, personne ne me croirait si je racontais que je suis ce que je suis en train de vivre. Même mes amis les plus proches ne me croiraient pas. À l'époque, je n'envisageais évidemment pas la possibilité d'en parler devant quelques centaines de personnes. Finalement, la scientifique en moi prit le dessus et m'adressant à elle avec une idée astucieuse, je lui dis « Vous devez savoir que le pasteur G vit maintenant à Urbana. » Car il y avait repris une paroisse et je continuais. « Il serait sûrement ravi de recevoir un mot de vous. Y voyez-vous un inconvénient ?» Et je lui passais un crayon et une feuille de papier. Vous aurez compris que je n'avais aucune intention d'envoyer ces lignes à mon ami, mais j'avais besoin d'une preuve scientifique, car il est évident qu'une personne enterrée ne peut plus écrire de lettres. Et cette femme, avec un sourire très humain, non, pas humain, avec un sourire plein d'amour, pouvait lire toutes mes pensées. Je savais comme jamais auparavant qu'il s'agissait ici de lecture de la pensée. Elle prit le papier et écrivit quelques lignes. Bien sûr, nous l'avons encadré et nous le gardons comme un trésor. Ensuite, elle dit, et ce sans ouvrir la bouche, « Êtes-vous contente maintenant ?» Je la dévisageais fixement et pensais, « Je ne pourrais partager cette expérience avec personne, mais je conserverai cette feuille de papier. » Et puis, en se préparant à partir, elle répéta, « Docteur Ross, vous me le promettez, n'est-ce pas ?» Je savais qu'elle parlait de la poursuite de mon travail et je répondis « Oui, je le promets ». Et au moment où je disais « Je le promets », elle disparut. Nous possédons toujours ces lignes manuscrites. Il y a 1 an et demi, on m'informa que mon travail auprès des mourants était maintenant terminé, puisque d'autres pourraient le poursuivre et que ce travail n'était pas la vraie vocation pour laquelle j'étais venue sur Terre. Que toute ma recherche dans le domaine du mourir et de la mort n'aurait été pour moi qu'une épreuve pour vérifier si j'étais capable de m'imposer malgré les difficultés, la diffamation, la résistance et beaucoup d'autres choses. J'ai réussi cette épreuve. La 2e épreuve consistait à constater si la gloire me monterait à la tête, mais la gloire ne m'est pas montée à la tête. J'ai également réussi cette épreuve. Ma vraie tâche, et là j'ai besoin de votre aide, consiste à dire aux hommes que la mort n'existe pas. Il est important que l'humanité le sache car nous nous trouvons au seuil d'une période très difficile, non seulement pour l'Amérique, mais pour toute la planète Terre. La faute en incombe à notre soif de destruction. La faute en incombe aux armes atomiques. La faute en incombe à notre cupidité et à notre matérialisme. La faute en incombe à notre comportement en matière de pollution. Nous sommes coupables d'avoir détruit tant de dons de la nature. Nous sommes coupables d'avoir perdu toute spiritualité. J'exagère un peu, mais sûrement pas beaucoup. Le seul moyen d'amener un changement pour l'avènement d'un nouvel âge consiste en ce que la terre commence à trembler afin que nous soyons secoués. Il faut que vous le sachiez, mais il ne faut pas que vous ayez peur. Ce n'est qu'en vous ouvrant à la spiritualité et en perdant la peur que vous arriverez à une compréhension et à des révélations supérieures. Tous ici peuvent vous y arriver. Vous n'avez pas besoin pour autant de vous adresser à un gourou, ni d'aller en Inde. Il ne vous faut même pas un cours de méditation. Il suffit que vous appreniez dans le calme à entrer en contact avec votre moi. Cela ne vous coûte rien. Prenez contact avec votre propre être profond et apprenez à vous débarrasser de toute peur. Un moyen pour ne plus avoir peur est de savoir que la mort n'existe pas et que tout ce qui nous arrive dans cette vie sert un but positif. Débarrassez-vous de votre négativité, commencez à prendre la vie comme un défi, comme un lieu d'examen pour mettre vos capacités intérieures et votre force à l'épreuve. Il n'y a pas de hasard. Dieu n'est pas quelqu'un qui punit et condamne. Après avoir définitivement quitté le corps physique, vous arriverez à l'endroit qu'on désigne comme enfer ou ciel, ce qui n'a rien à voir avec le jugement dernier, ce que nous avons appris de nos amis qui sont partis, ce que nous avons appris des gens qui sont revenus, et l'assurance que chaque être, après son passage, tout en ayant éprouvé le sentiment de paix, d'équilibre et de plénitude, et ayant rencontré une personne aimée pour l'aider lors de ce passage, doit regarder quelque chose qui ressemble à un écran de télévision où se reflètent tous nos actes, toutes nos paroles, toutes nos pensées terrestres. Nous avons ainsi l'occasion de nous juger nous-mêmes à la place d'un Dieu sévère. Par votre vie, ici-bas, vous créez déjà maintenant votre enfer ou votre ciel dans l'au-delà.